Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, en partenariat avec Libération, le référendum pour le traité de Maastricht. Début 1992, ce traité est signé. Les 12 États membres se trouvent alors confrontés à un choix crucial. Faut-il passer par les parlements largement acquis à la cause européenne ou par référendum, par nature plus risqué, le non étant prétexte à toutes les oppositions, en premier lieu au chef de l'État, le oui, supposant une adhésion pleine et entière. Mais le référendum reste la seule manière de rendre le traité légitime et de donner un nouvel élan à la construction européenne. Sur les 12 pays que compte la communauté économique européenne d'alors, 3 seulement vont faire ce pari. L'Irlande, le Danemark et, à la surprise générale, la France. S'ensuit un débat politique intense. Les avocats du non sont de tous bords. Philippe de Villiers, Jean-Pierre Chevènement, mais aussi Philippe Séguin, qui, aux côtés de Charles Pasqua, va particulièrement s'illustrer dans cette campagne. Face à eux, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing et la majorité du Parti Socialiste. François Mitterrand, l'un des grands promoteurs du traité, s'engage à fond et vient le défendre au cours d'une grande émission de télé présentée par Guillaume Durand. Ce sera le point culminant du débat. Le 20 septembre 1992, le traité est accepté de justesse. Le oui l'emporte par 51,04% des voix. 24 ans plus tard, l'Union européenne est plus que jamais fragilisée. Possible sortie de la Grèce et de la Grande-Bretagne, crise des migrants, montée des populismes, chômage de masse qui persiste. Autrement dit, pourquoi l'Europe, présentée en 1992 par le tenant du traité de Maastricht comme la solution, est-elle devenue pour les peuples qu'elle fédère le problème ? Une question en forme de désillusion sur laquelle nous allons réfléchir également après le récit avec notre invité Jean Quatremer, journaliste à Libération, notre partenaire spécialiste des questions européennes. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Libération, préparée par Johan Denain avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Elisa Mas et Lucille Valéry, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Enzo Labori.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Et 10 décembre 1991, Maastricht, petite ville au sud des Pays-Bas. C'est là, dans le palais du gouvernement provincial, que se retrouvent les chefs d'État et de gouvernement pour les dernières discussions sur le traité qui porte le nom de cette commune néerlandaise. Au menu, naissance de l'Union européenne qui remplace la communauté économique européenne avec monnaie unique, affirmation d'une citoyenneté européenne, politique étrangère et de sécurité commune, coopération sur la justice et les affaires intérieures. Les grandes lignes en ont déjà été discutées depuis 2 ans. 2 années qui ont chamboulé l'Europe, avec en novembre 1989 la chute du mur de Berlin qui précipite la décomposition de l'Union soviétique. Quelles vont être les nouvelles frontières de la future Union européenne ? Aura-t-elle vocation à accueillir les pays de l'Est, par exemple ? Au cœur de cet échiquier, l'Allemagne, bien sûr, un pays puissant. Trop puissant ? On a la réponse aujourd'hui, mais à l'époque et après la réunification, c'est déjà le pays le plus riche d'Europe. « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux », aurait dit Mauriac 40 ans plus tôt. Cette phrase résonne dans l'esprit de François Mitterrand qui, comme beaucoup d'autres, craint que ce pays renoue avec ses vieux démons. Sur ce point, Helmut Kohl, un Européen convaincu, se montre rassurant, avenant même.
Celui qui a peur des Allemands aujourd'hui, eh bien, il faut tout d'abord analyser ses craintes. De quoi avez-vous peur ? Du point de vue militaire, c'est absurde. L'Allemagne n'est pas une puissance nucléaire et ne le deviendra pas. Ce n'est absolument pas notre volonté. Mais la meilleure façon de lever la crainte, mais c'est bien l'intégration politique européenne, c'est le seul argument vraiment convaincant. Naturellement, ma politique n'a absolument pas changé. Lorsque je parle de l'Allemagne et de la France, je dois d'abord parler de l'Europe et ensuite de l'Allemagne et de la France. Les deux choses sont inextricablement liées. Je suis absolument résolu à mettre en œuvre le préambule de notre Constitution, tant que je serai en mesure de le faire. La Constitution dit « Nous voulons l'unité allemande et l'unification politique de l'Europe ». Ce sont les deux faces d'une même médaille.
Premier round, l'union économique et monétaire. Le système monétaire européen en 79, puis le marché unique Jacques Delors dans les années 80, ont fait leur preuve. L'Europe économique fonctionne. Il faut donc maintenant parachever ce grand marché avec une monnaie unique. Mais la Grande-Bretagne préfère une monnaie commune, une monnaie de référence qui permet d'harmoniser les politiques monétaires, certes, mais tout en laissant une souplesse aux États. Car la monnaie unique, elle, suppose trop de contraintes aux yeux des Britanniques, à la tête desquels la mise en place d'une autorité financière de régulation, la future Banque Centrale Européenne, ainsi que l'application des fameux critères de convergence, maîtrise des dépenses publiques avec un déficit inférieur à 3% du PIB, maîtrise également de l'inflation et des taux d'intérêt. Ces critères de Maastricht, diront certains, vont rester jusqu'à aujourd'hui le symbole de la domination d'une Europe sans visage sur les politiques économiques nationales. Pour l'Allemagne et pour la France, cette Europe monétaire doit être accompagnée d'un volet social qui, avec l'Europe de la défense, sera au cœur des discussions du lendemain qui s'annonce rude. Deuxième round, mardi 10 décembre 91. La journée commence tôt, avec au petit déjeuner un tête-à-tête désormais rituel lors des sommets européens entre les deux alliés, François Mitterrand et Helmut Kohl. Et les entretiens sont toujours dominés par la résistance britannique. Sur l'Europe de la défense, les débats sont tendus, elle qui n'a pas su affirmer une position commune face à la guerre du Golfe et au leadership américain. Plus grave, à 2 heures d'avion de Paris, c'est la guerre en Yougoslavie qui fait rage au sein d'une Europe conçue précisément pour éviter la guerre. Mais les États membres, là encore, ne parviennent pas à se mettre d'accord pour intervenir dès le début du conflit. À 18h, le tandem franco-allemand parvient à faire accepter aux 12 l'idée d'une défense commune. Oh, les résultats sont timides. Toute décision requiert l'unanimité, ce qui est évidemment difficile, voire impossible, car qui dit unanimité, dit droit de veto. Un seul pays refuse un accord, il n'y a plus d'accord. Quant aux discussions sur l'Europe sociale, elles butent sur le refus de la Grande-Bretagne, qui ne veut pas perdre sa compétitivité. Alors, à 1h30 du matin, c'est un François Mitterrand visiblement fatigué qui annonce la fin du sommet.
Fin 1991, cette charte accompagnera la politique sociale. Seulement, elle l'amènera à 11, en raison du souhait de la Grande-Bretagne de rester au dehors.
On doit cet arrangement de dernière minute à la Hollande, mais à 2h du matin, John Major se félicitait d'avoir tenu bon, non sans une certaine ironie. En matière sociale, le texte du traité n'est pas changé par rapport au traité de Rome. Il n'y a pas d'extension des pouvoirs de la communauté, pas de majorité de vote supplémentaire, il n'y a pas de nouveau texte de traité sur l'Europe sociale.
Quelques semaines plus tard, le 7 février 1992, le texte est enfin signé par les chefs d'État et de gouvernement. Alors, est-ce enfin le jour tant attendu qui, depuis la signature du traité de Rome en 1957, consacre l'Europe ? Est-ce le grand soir de l'union des peuples ? Le problème, c'est qu'en France, nous sommes à la veille de la cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville. Donc du sport, du fun et surtout du concret. Autant dire que face à cet événement, le traité européen compliqué et conceptuel intéresse peu. Du reste, ce soir-là, au journal télévisé, l'ambassadeur français auprès de ce qui est encore la CEE ne parvient pas à convaincre.
C'est un traité qui lui-même porte en germe des négociations complémentaires et des avancées complémentaires qui se feront dans les, disons, les 8 ou 10 ans qui viennent. Et par conséquent, ce traité, en quelque sorte, est une étape dans un processus qui a démarré au moment où a été signé le traité de Rome et qui n'est pas achevé encore.
Ce traité doit être ratifié par tous les États membres et chaque pays doit maintenant faire un choix, ratification par les parlements ou référendum populaire. Le 3 juin 1992, François Mitterrand crée la surprise lorsqu'au terme d'un conseil des ministres, il annonce tranquillement son choix, ce sera le référendum. La France rejoint donc l'Irlande et le Danemark où la veille de ce 3 juin, le peuple s'est prononcé contre le traité de Maastricht à une très courte majorité. En France, le tableau est sombre. Le chômage persiste, l'affaire du sang contaminé empoisonne la chronique et les erreurs d'Élite Cresson qui vient d'être remplacée par Pierre Bérégovoy ont affaibli le président. Les dernières élections régionales, 3 mois plus tôt, ont infligé une sévère défaite au Parti Socialiste. François Mitterrand est particulièrement impopulaire, le second septennat s'essouffle. Côté politique, le débat sur le traité de Maastricht a déjà commencé. Depuis 2 mois, le Parlement et le Sénat sont en pleine discussion. Le Conseil constitutionnel estime que pour ratifier le traité de Maastricht, il faut réviser la constitution française, pas moins. Les premiers votes au Parlement et au Sénat confirment que cette révision sera bel et bien votée. Mais des voix dissonantes s'expriment. Un homme particulièrement déterminé ouvre et anime le débat. C'est Philippe Séguin, brillant énarque de 49 ans à l'époque, député des Vosges, orateur de talent. C'est lui qui ouvre les hostilités contre le traité de Maastricht, mais aussi contre la majorité de son camp, le RPR, comme ici, à l'Assemblée nationale, le 5 mai 1992, où, comme beaucoup d'opposants à Maastricht, il prononce « Maastricht ».
On ne s'y trompe pas. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique, mis au point à Maastricht, est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789.
Cette intervention de Philippe Séguin va diviser le RPR. Plus largement, elle lève un tabou au sein des grands partis politiques. Et la parole se libère, bien au-delà d'ailleurs, du parti néo-gaulliste.
Dans sa croisade anti-Maastricht, Philippe Séguin en effet agrégé sous sa bannière beaucoup plus de volontaires que prévu. Il y a bien sûr les brigades du Parti communiste, quelques mercenaires socialistes autour de Jean-Pierre Chevènement, deux ou trois têtes brûlées de l'UDF comme Philippe de Villiers ou Alain Griotret, et surtout plusieurs escouades de gaullistes, près d'une soixantaine de fantassins prêts à se battre pour la défense de l'héritage.
Dans ces conditions, pourquoi tenter le pari risqué d'un référendum ? D'abord et avant tout pour légitimer la construction européenne. Deux jours après son annonce d'un référendum, François Mitterrand se justifie lors d'un déplacement à Sciences Po face à une salle déjà divisée sur la question.
J'ai choisi, comme vous le savez, le référendum. C'est plus risqué, c'est vrai, et je le sais. C'est risqué pour l'Europe, c'est risqué pour le gouvernement et la majorité. C'est risqué pour le président de la République. Il faut donc engager un combat démocratique. Et ce débat n'aurait pas eu lieu autrement. Les députés et les sénateurs auraient continué de discuter, personne ne s'y serait intéressé. Or, il faut que dans chaque village, que dans chaque commune, que dans chaque quartier, dans chaque rue, il y ait une formidable explication, puisqu'il s'agit et de la France et de l'Europe.
Autre explication, plus tactique, il s'agit surtout de surprendre ses adversaires politiques. Car l'idée du référendum ne vient pas du Parti Socialiste. La plupart de ses membres, favorables au traité, ont en effet une crainte que le peuple vote contre François Mitterrand. D'ailleurs, tous les autres partis ont exigé un référendum, des communistes jusqu'à l'extrême droite, en passant par le RPR de Jacques Chirac, évidemment, la belle affaire. Il n'y a qu'à l'UDF que le débat est ouvert. Valéry Giscard d'Estaing, européen jusqu'au bout des ongles, craint de perdre sur les deux tableaux. Si le oui l'emporte, son adversaire de 1981, qui a osé lui ravir l'Élysée, sera renforcé. Et en cas de victoire du non, Maastricht et donc l'avenir de l'Europe seront condamnés. En fait, le chef de l'État aurait attendu que ses adversaires politiques lui demandent ce référendum tout en l'estimant peu probable, car trop risqué. Mais l'occasion était trop belle de leur couper l'herbe sous le pied. Bien, mais pourquoi François Mitterrand a-t-il attendu le mois de juin pour l'annoncer ? Le calendrier électoral pourrait aussi expliquer cette annonce tardive, car le vote doit se tenir le plus tard possible. En mars 1993, en effet, les élections législatives risquent d'imposer au chef de l'État une seconde cohabitation. Ce débat public sur le traité de Maastricht aura l'avantage de mettre au grand jour les divisions internes de la droite, voire de l'affaiblir du Mitterrand pur jus. La consultation des Français par référendum va donc se tenir le 20 septembre 1992. 14 juillet de cette année-là, c'est le traditionnel garden party de l'Élysée. Lors de la non moins traditionnelle interview liée à cet événement annuel, François Mitterrand mise sur la responsabilité des Français tout en prenant soin d'écarter l'idée d'un plébiscite. L'homme est réaliste, mais confiant. Dans les jardins de l'Élysée, on parie que le oui a toutes les chances d'atteindre les 55%. Deux semaines auparavant, le président confiait même à l'un de ses proches qu'il pourrait l'emporter à 60%. Mais en ce jour de fête nationale, limite iconoclaste, c'est Elisabeth Guigou qui tire la sonnette d'alarme. La ministre déléguée aux Affaires européennes est la seule du gouvernement à être entrée en campagne pour défendre le traité. Mais son constat est lucide. Les Français sont sensibles aux arguments du non, qui progressent d'ailleurs au cours de l'été. Convoqué par le chef de l'État, un dirigeant d'Ipsos montre que le plancher du oui est à seulement 52%. Fin juillet, le chef de l'État sent le vent tourner. Alors il rassemble ses troupes et confie la riposte à Jack Lang et Elisabeth Guigou. Il faut mettre en œuvre une stratégie de conquête. Faut-il mener une campagne spécifiquement socialiste ou au contraire harmoniser les arguments de l'ensemble du oui droite incluse? Là où Jack Lang veut inviter les people à défendre le oui, Jacques Pulan et Hubert Védrine veulent mobiliser la France profonde. Autre question, faut-il dramatiser les conséquences du non? Expliquer que cet échec serait terrible pour la construction européenne? La campagne pour le oui va user de cet argument. Si vous êtes pour la paix, vous êtes pour l'Europe et donc vous êtes pour le traité. Ainsi, s'opposer au traité serait d'une certaine façon laisser la porte ouverte à la guerre. Cet argument extrême ne propose rien de positif. Ne reposant que sur la peur, il n'aide pas le camp du oui, face en tout cas aux arguments des partisans du non, qui tiennent en une phrase « Oui, on peut être pour l'Europe et contre le traité, et mieux encore, c'est parce que nous sommes pour l'Europe que nous sommes contre le traité ». Hormis le Front National, les opposants affirment haut et fort leur désir d'Europe, mais d'une autre Europe. Alors, durant tout l'été, tandis qu'Elisabeth Guigou sillonne les plages à la rencontre des Français, Philippe Séguin, lui, dans un style plus classique, choisit de faire une tournée de conférences dans la France entière, où il affirme une autre conception de l'Europe.
Il y a deux conceptions qui s'affrontent. Il y a une conception à vocation supranationale, à finalité fédérale, qui cherche à réaliser un seul État, et puis il y a une autre conception qui pense que les États-nations n'ont pas fait leur temps, et qui cherche à construire une Europe qui serait appuyée sur les États-nations en question. Le propre de Maastricht, c'est de trancher entre ces deux conceptions, et à mes yeux, de faire de mauvais choix.
Au RPR, le camp du non voit dans ce traité une perte de souveraineté nationale sur des sujets aussi variés que la monnaie unique, la citoyenneté européenne, le droit de vote pour les ressortissants européens dans les élections locales ou la politique commune d'immigration. Au PS, Jean-Pierre Chevènement profite également de l'été pour faire sa campagne. Il fonde le mouvement des citoyens et réunit lors de conférences publiques communistes refondateurs, socialistes contestataires et verts résolument à gauche. Le point de départ est le même qu'à droite. Le traité de Maastricht implique une perte de souveraineté. Mais Jean-Pierre Chevènement insiste sur l'une des conséquences, le chômage.
Je crois qu'il y a un déficit démocratique certain. On n'a pas assez parlé concrètement de la manière de faire la construction européenne. Trop de décisions se prennent d'une manière totalement antidémocratique. Et puis la montée du chômage ne peut quand même pas s'expliquer facilement si on ne met pas en relief le rôle joué par les contraintes monétaires dans notre politique économique depuis au moins 1983. Alors, cette Europe de Maastricht, c'est une Europe qui va renforcer les disciplines monétaristes, les politiques dites de convergence, qui vont grossir le chômage avec toutes les fractures sociales que cela implique.
En fait, c'est la crainte d'une Europe libérale qui s'affirme à gauche. La politique des États en matière économique devra se conformer au principe de libre concurrence. Si la banque centrale sera indépendante des gouvernements, certes, elle ne le sera pas des marchés financiers. De son côté, François Mitterrand passe son été à préparer le grand débat télévisé qui, le 3 septembre, sera le temps fort de cette campagne. Mais ce qu'on sentait arriver arrive. Fin août, le non est donné gagnant à 52%. Côté socialiste, c'est la mobilisation générale. Hubert Védrine, alors secrétaire général à l'Élysée, donne le ton. Il faut reconquérir les suffrages voix par voix, lance-t-il à toute son équipe, faire basculer les indécis. Chacun doit téléphoner à 50 personnes dans son entourage. Bref, il faut aller chercher la victoire avec les dents. Jack Lang et Elisabeth Guigou convoquent alors l'ensemble des directeurs et des chefs de communication des différents ministères et l'atmosphère se tend dans l'entourage du chef de l'État. Certains, comme le président de l'Assemblée nationale, Henri Emmanuelli, ou le secrétaire d'État à l'enseignement technique, Jean Glavany, reprochent au président de s'être lancé dans cette aventure. Ne devrait-il pas, pour sauver l'Europe, annoncer son départ? Aurait-il songé quelque part à imiter De Gaulle et son référendum suicide de 69? Dans le monde entier, les bourses, elles aussi réagissent au sondage. Que le nom monte et elle plonge. Les Français, eux aussi, se prennent de passion pour le référendum. Une vingtaine de pamphlets d'analyse recouvrent les étals des librairies. En tête, les deux mousquetaires du non, Philippe de Villiers et Philippe Séguin, avec plus de 50 000 exemplaires de leurs livres déjà vendus en ce début septembre. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui, le traité de Maastricht. Le 3 septembre 1992, c'est le grand jour pour convaincre les derniers indécis. Plus de 8 millions de Français vont assister au grand débat diffusé sur TF1 depuis l'amphithéâtre de la Sorbonne, un lieu solennel où François Mitterrand joue sa dernière carte. L'émission dure plus de 3 heures. Elle commence par un entretien avec Guillaume Durand, au cours duquel sont abordés les grands points du traité. Ensuite, le président répond à 14 Français soigneusement sélectionnés. Un dispositif qui court-circuite les élites politiques, médiatiques, la nomenclature institutionnelle. Pour un référendum, on peut le comprendre, mais cette méthode va s'imposer ensuite et jusqu'à aujourd'hui pour n'importe quelle élection alimentant la démocratie du moi-je aux dépens du débat de fond. Toujours est-il que ce jour-là, le chef de l'État est volontiers pédagogue face aux questions du panel. Ensuite, il répond aux questions de 3 journalistes. Et là, évidemment, c'est un peu plus difficile, notamment avec ce vif échange avec Jean d'Ormesson.
Jean d'Ormesson.
Monsieur le Président, vous êtes dans une situation terriblement paradoxale.
Ah.
Vous êtes, on le voit bien ici, le meilleur et le principal animateur de Maastricht.
Vous êtes bien aimable.
Et vous êtes, vous le savez aussi, le principal obstacle à Maastricht.
Selon vous.
Selon les sondages.
Selon quelques autres, vous avez raison. Vous n'êtes pas le seul à le penser.
Je voudrais vous demander si l'idée ne vous est jamais venue de sacrifier votre carrière personnelle à une cause qui la dépasserait très loin.
Ça m'est arrivé déjà.
Eh bien, ce soir, ici, maintenant, si vous annonciez, comme vous le demandent, non pas seulement les adversaires, mais je crois bien des amis, qu'en cas de victoire du non, je veux dire non. qu'en cas de victoire du oui, excusez-moi, c'est le lapsus inévitable. Le non, nous n'en parlons.
J'ai parfaitement compris ce que vous vouliez me dire, ne vous en excusez
en
pas.
En cas de victoire...
En somme, on me demande de partir en non. cas de oui et en cas de non.
Absolument, vous avez raison.
Le corps est malade, mais l'esprit est toujours là. Dernière partie de l'émission, le chef de l'État débat avec un Philippe Séguin, référent, visiblement impressionné par son adversaire, on peut le comprendre.
Je vous ai entendu développer une théorie originale qui est la théorie de l'accident. Pour le reste, je n'ai pas grand-chose à vous répondre, parce que vos critiques portent essentiellement sur l'Europe telle qu'elle a existé, et pas du tout sur le traité de Maastricht tel qu'elle doit exister. Alors, je n'ai rien à vous répondre là-dessus.
Et pourtant, il se trouve, Monsieur le Président de la République, qu'il y a beaucoup de Français qui sont acquis à l'idée européenne et qui ne peuvent accepter ce traité de Maastricht.
Je pense que c'est votre cas.
C'est probablement mon cas, oui.
Non, probablement seulement.
Plus que probablement.
Oui, quelquefois, je me pose la question.
Mais je me réserve, Monsieur le Président de la République, jusqu'à la fin de notre discussion. Oui. Il serait irrévérencieux vis-à-vis de vous de conclure trop tôt.
Les commentateurs de l'époque sont unanimes. François Mitterrand a su gagner des points pour le oui dans cette émission, avec des arguments solides au cours d'un débat de qualité, alors qu'en principe, une émission de télé ne fait pas basculer une élection. Exceptionnelle aussi la combativité du président. Martyrisé par son cancer, il fait preuve d'une ténacité, d'un courage physique qui aujourd'hui encore suscite l'admiration. Comme en témoignent Guillaume Durand et Étienne Moujotte, alors patron de TF1 qui diffusait le débat, tous deux racontent ce qui se passe pendant la coupure de publicité demandée par l'Élysée.
Et moi, ils m'ont rien dit. La seule chose que je savais, c'est qu'un jour, peu de temps avant le début, je crois qu'ils avaient réclamé une coupure de pub.
Et en réalité, elle a permis à François Mitterrand de prendre quelques minutes de repos. Et au moment de la coupure, je l'ai raccompagné dans ce qui était sa loge. C'était une petite salle de la Sorbonne. Ça n'avait évidemment rien d'une loge de télévision. Et il s'est enfermé avec le docteur Hubler.
Séguin revient. Mitterrand ne revient pas. J'ai Moujotte, moi, dans l'oreillette, qui me dit, on sait pas où il est. Tout d'un coup, je me suis retrouvé seul avec Séguin, quand même assez imposant, cette espèce de Falstaff pied noir qui attendait dans un coin. La Sorbonne bourrée, un orchestre prêt à démarrer, Mitterrand, rien. Et Moujotte qui me dit, on sait pas où il est. Il va revenir. On sait pas où il est. Il va revenir.
Et puis, François Mitterrand est sorti. Il avait l'air damné, comme on dit. Et puis, on l'a ramené sur le plateau, il est revenu sur le plateau, il s'est assis, et là il a engagé un débat avec Philippe Séguin, un débat extrêmement brillant, enfin où il a vraiment, peut-être là, sinon gagné le Maastricht, du moins marqué des points formidables.
Une semaine plus tard, le 11 septembre 1992, François Mitterrand est hospitalisé et révèle enfin, après plus de 10 ans de silence, son cancer de la prostate. Quelques jours plus tard, à sa sortie de l'hôpital, face à un journaliste qui semble s'excuser de lui poser la question, il conserve toute sa répartie.
Monsieur le Président, vous avez souhaité toujours beaucoup de transparence dans votre état de santé, donc il faudrait qu'on vous demande si vous pensez aujourd'hui continuer vos activités ou si vous avez songé à les abandonner, à démissionner.
Je n'ai pas encore songé, non. Non, il n'y a pas de raison. Je ne pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car ce n'est pas de ce côté-là que ça se passe.
Dimanche 20 septembre, journée du scrutin. Les médias offrent le spectacle habituel du vote des personnalités politiques et à 20h, les premiers résultats tombent.
Comme je vois que tous nos confrères des télévisions donnent déjà le résultat, je pense que nous pouvons appeler Roland Quayrol depuis le CSA. C'est le oui qui l'emporte.
Eh oui, c'est le oui qui l'emporte. Oui, 51,5. Non, 48,5. Je répète, oui, 51,5. Non, 48,5. Il y a par ailleurs 29% d'abstention et 2,4% de bulletins blancs et nuls. Donc le oui l'emporte en effet, vous le voyez, mais c'est un petit oui, 51,5.
51,04% pour le oui sur le fil du rasoir. L'avance n'est que de 540 000 voix et la participation est exceptionnelle avec près de 70% des inscrits qui ont voté. Et l'on s'aperçoit que le camp du non est largement ancré à gauche et chez les populations les plus fragiles, tendance que d'autres consultations sur l'Europe viendront confirmer plus tard. Mais sur le coup, Ce résultat reste bien sûr une victoire et un soulagement pour le chef de l'État qui intervient à l'Élysée vers 22h30.
Imaginez maintenant la joie des pays de la communauté, nos amis les plus proches qui attendaient de nous le signe dont ils avaient besoin. Imaginez la joie des autres pays européens, presque tous, qui aspirent à nous rejoindre, surtout ceux qui ont été si longtemps privés de liberté.
Le débat sur le traité de Maastricht aura profondément marqué l'esprit des Français, à gauche comme à droite, tout comme les aura marqué la campagne pour le référendum sur le traité constitutionnel de l'Europe, cet espace géopolitique si prometteur hier, qui aujourd'hui pourtant semble être à l'origine, à tort ou à raison, du malaise des peuples européens. Malaise économique, crise de la dette, déficit public, chômage, flux migratoires, technocratie de Bruxelles et surtout déficit démocratique, peut-être l'échec le plus patent du rêve européen.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste?
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le traité de Maastricht et ses prolongements, bien sûr, avec notre invité Jean Quatremer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans les studios de Radio France à Bruxelles, que nous remercions pour leur accueil, ainsi que Quentin Dickinson. Vous êtes journaliste à Libération, spécialiste des questions européennes. Alors, parce qu'on l'a un peu oublié, malgré ce récit, l'étape de Maastricht, c'était quoi précisément pour vous dans l'esprit de ses promoteurs? Bien sûr, l'union monétaire européenne, bien sûr, l'euro, évidemment, hein, l'horizon euro. Mais quoi d'autre? C'était quoi la philosophie de ce traité?
Vous savez que j'ai suivi justement toutes les négociations du traité de Maastricht en 1990-91. Et donc, il faut savoir que ça a été lancé avant même qu'on pense que le communisme allait s'effondrer et que l'Allemagne allait se réunifier. C'était une idée qui était déjà dans l'air au moment de la nomination de Jacques Delors comme président de la Commission européenne en juillet 1984. Et c'était la grande idée, en fait, de François Mitterrand, qui était finalement de réussir au niveau européen davantage qu'il n'avait réussi au niveau français. Vous savez, en 1984, on sort du tournant de la rigueur. Toutes les promesses de la gauche socialo-communiste de l'époque ont été abandonnées. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas creuser ad infinitum le déficit, que la dette posait un énorme problème à terme. Et donc, il fallait qu'il lègue quelque chose à la France. Et son idée, c'était de léguer une Europe davantage intégrée qu'il n'avait trouvé en arrivant. Donc, dès qu'il arrive, il tente de régler la question, vous savez, du chèque britannique. Hein, vous vous rappelez, I want money back. Margaret Thatcher. Exactement. Donc, toujours avec son petit sac sur les genoux, hurlant à chaque conseil. Donc, il règle ça en juillet 1984 à Fontainebleau. Et avec Helmut Kohl, envoie Jacques Delors, son ministre des Finances de l'époque, à Bruxelles comme président de la Commission. Alors, dès le départ, Jacques Delors cherche à savoir un peu ce que les États sont prêts à faire. Et il s'aperçoit qu'au maximum, ils sont prêts à réaliser le marché unique. Donc, sa première idée, c'est achever le marché unique qui aurait dû être achevé en 70. Et qui a déjà 14 ans de retard à l'époque, on l'a oublié. Et puis une fois que ce marché unique est mis sur la voie, vous savez qu'il y a le premier, cette idée pour le mettre sur les rails, il faut modifier les traités, et c'est l'acte unique de 1986, c'est-à-dire qu'on passe au vote à la majorité qualifiée, ce qui est un changement monumental à l'époque, c'est-à-dire qu'on a des États acceptent d'être mis en minorité. Et une fois que le marché unique est sur la voie de l'achèvement, il faut aller encore plus loin, vous savez, c'est la théorie du domino, donc c'est l'idée de la monnaie unique, et donc la monnaie unique est lancée à partir de 1988 et arrive à ce moment-là l'effondrement du communisme, l'unification allemande, et là c'est la panique. Et on se rend bien compte qu'il y a des tensions énormes entre la France et l'Allemagne. La France a très peur de cette Allemagne réunifiée qui à nouveau va dominer le centre de l'Europe qui s'annonce.
Donc il faut l'intégrer. Faut l'intégrer.
Exactement, il faut ancrer l'Allemagne au cœur de l'Europe. Vous savez, François Mitterrand est un homme de la Seconde Guerre mondiale. Helmut Kohl aussi, ils ont connu cette Europe dominante sans contrepoids. Et à chaque fois que cette Allemagne dominante sans contrepoids, et à chaque fois que l'Allemagne a dominé, eh bien, ça s'est terminé par des guerres, et des guerres qui ont ensanglanté le continent européen.
Alors, Jean Quatremer, très bien. Donc ça, c'est le raisonnement en 1992, il y a donc 24 ans. Aujourd'hui, cette idée d'une Europe qui se construit pour éviter la guerre, est-ce qu'elle est encore d'actualité, finalement, sur ce principe-là?
Mais regardez autour de vous, la crise des réfugiés. Imaginez une seconde qu'on n'ait pas eu l'Union européenne, c'est-à-dire que nous n'ayons pas été aussi intégrés que nous le sommes aujourd'hui. Vous croyez que ça serait terminé comment? Vous croyez qu'il n'y aurait pas eu encore déjà des affrontements entre l'Albanie et la Grèce, entre la Hongrie et la Serbie, entre la Hongrie et l'Autriche, chacun se refilant le bébé de millions de réfugiés lancés sur les routes? Comment vous croyez que ça serait passé s'il n'y avait pas eu, je dirais, ce tamiseur d'intérêts nationaux conflictuels qu'est l'Union européenne?
C'est important, c'est important que vous disiez ça, parce que sur effectivement la crise des migrants, c'est une crise humaine, hein, sont d'abord des hommes, des femmes, des enfants, et on dit mais l'Europe est en échec, ça ne fonctionne pas. Donc c'est important que vous disiez ça, effectivement, parce que même si effectivement il y a toujours des drames humains, tous les jours, au bord de la Méditerranée, une Europe intégrée a probablement évité des guerres qui auraient pu être générées par cette situation. On y reviendra d'ailleurs. Qu'est-ce qui reste finalement du traité de Maastricht, puisqu'il y a eu d'autres traités? Alors il y a eu le traité constitutionnel qui n'a pas été adopté, mais qui a été finalement imposé de façon assez antidémocratique par le traité de Lisbonne. Il y a eu des réformes. Qu'est-ce qui reste? À part l'euro, évidemment. L'euro, c'est ce qui reste de Maastricht. Mais qu'est-ce qui reste du traité de Maastricht?
Le traité de Maastricht, ça a été le début aussi de la démocratisation de l'Union européenne. Je vous rappelle que en 1957, lorsque le traité de Rome est signé par les six pays de l'époque, l'Allemagne avait exigé que le Parlement européen ait les mêmes pouvoirs que le Conseil des ministres, hein, qui est la réunion des représentants des États membres et qui était le seul législateur de l'époque. Et les Français, qui déjà en 1957 voyaient d'un mauvais œil tout ce qui était supranational, national, et donc un Parlement européen élu au suffrage universel qui pourrait décider au-dessus de la tête des États.
Et on en est loin, oui, on en est loin. Malheureusement.
Oui, mais sauf que à l'époque, les Français ont bloqué. Et il faut attendre le traité de Maastricht. Il faut attendre le traité de Maastricht pour que enfin le Parlement européen puisse bloquer des projets de loi adoptés par les États. Mmh. C'est la première fois. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a oublié. Et aujourd'hui, après le traité de Maastricht, c'était le début, et c'est les Allemands qui ont exigé ça comme prix de leur renoncement au Deutschmark. C'était ça, la contrepartie, l'Europe, le début de l'Europe politique, c'était que le Parlement européen ait enfin des pouvoirs. Alors on en a donné un petit peu à Maastricht, et puis ensuite avec Amsterdam, le traité de Nice, puis le traité de Lisbonne, eh bien on a donné davantage à chaque fois de pouvoir au Parlement européen, qui aujourd'hui, dans l'Europe telle qu'elle est, a autant, et sur le même plan que les États. C'est quelque chose d'absolument étonnant. Les Français de 1957 ne s'y retrouveraient pas dans cette Europe, justement, qui est beaucoup plus démocratique que vous le dites.
Mais Jean Quatremer, pendant le traité de Lisbonne, c'est quand même un sacré tour de passe-passe. Vous avez deux pays qui disent non, notamment la France. Et on impose un traité. Et est-ce que c'est démocratique, ça?
Mais qu'est-ce qu'il impose? Je veux dire que c'est la France, le gouvernement français qui décide, tout à fait légalement et légitimement, ça n'est contesté par personne, d'adopter un traité qui n'est pas le traité constitutionnel européen, mais qui lui ressemble effectivement, vous avez raison, beaucoup, en passant par la voie parlementaire. En France, dans la Constitution française, ça c'est la Constitution, vous la connaissez sans doute mieux que moi, la voie parlementaire a exactement la même légitimité que la voie référendaire.
Absolument.
Si un référendum interdisait pour l'éternité qu'on se prononce à nouveau sur une question qui a été rejetée par le peuple, par exemple, vous n'auriez pas eu en 1981 la décentralisation qui avait été refusée en 1969 par les Français. Donc, dire que c'est illégitime, non, c'est une décision française. Et d'ailleurs, ceux qui ont pris cette décision ont ensuite été tous élus. Je veux dire qu'il n'y a pas eu d'anti-européens qui ont été qualifiés lors de l'élection de 2012. Alors, vous voyez, c'est antidémocratique, il faut faire très attention avec ça, parce que ça donne cette idée qu'il y aurait une décision européenne, une espèce de grand complot européen qui impose les choses au peuple. Non, là, en l'occurrence, si la France avait dit « nous décidons que même le traité de Lisbonne, on n'en veut pas », il n'y aurait pas eu de traité de Lisbonne.
Et les décisions de la Commission de Bruxelles, elles sont démocratiques? Franchement.
Mais la Commission européenne, c'est comme un gouvernement.
Mais elle fait les deux. Elle est exécutive et législative, les deux, donc.
Non, elle n'est pas législative. C'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs réglementaires, tout comme le gouvernement français a des pouvoirs réglementaires. Et elle propose des directives et des règlements qui sont ensuite discutés et adoptés par le Conseil des ministres qui représente l'ensemble des États membres et par le Parlement européen. Donc la Commission a des pouvoirs réglementaires, c'est évident, mais comme le gouvernement français en a, où il y a des décrets, des arrêtés, des circulaires, et vous avez tout un ensemble législatif qui est discuté tout à fait démocratiquement. Mais là où vous mettez le doigt sur quelque chose, et là il y a un problème, et c'est ça en réalité que vous voulez dire, c'est sur la question de l'euro. La construction monétaire européenne, telle qu'elle a été faite, effectivement n'est pas démocratique. C'est-à-dire que tout ce qui est marché intérieur, qui était l'objet du débat au moment de Maastricht, c'est-à-dire on n'a pas parlé de la monnaie unique, en réalité on a parlé du marché unique qui était en train d'être achevé. Mais sur la question de la monnaie unique, le système décisionnel en réalité échappe largement au Parlement. Tout simplement, encore une fois, parce que la France a refusé que le Parlement européen ait le moindre pouvoir dans le domaine monétaire. Donc aujourd'hui, vous avez effectivement une commission qui propose des grandes orientations économiques, qui fait des recommandations sur les budgets. Tout ça est adopté par les États, à l'unanimité, au sein de l'Eurogroupe, mais tout ça ne va pas devant le Parlement européen, ni même devant les parlements nationaux. Mmh. Et c'est là où est le déficit démocratique. Alors évidemment, quand il s'agit, par exemple, de dire on va réformer les retraites, en réalité, ça veut dire quoi? On va couper dans les retraites. Eh bien, c'est décidé par nos ministres de l'économie et des finances, qui trouvent ça super bien de pouvoir dire en rentrant à Paris, c'est pas moi, c'est l'Europe qui allait décider, alors que c'est eux qui l'ont décidé avec leurs camarades ministres des Finances à Bruxelles.
Alors ça, Jean Quatremer, ça pose aussi une autre question importante. C'est la question d'une Europe fédérale ou non. Moi, j'ai l'impression qu'on est entre deux modèles, quand même. Un peu comme si on avait les fesses entre deux chaises. C'est-à-dire que soit on est effectivement dans une logique fédérale, une logique supranationale, soit on est dans une logique des États-nations. Et il me semble qu'on n'a pas encore fait un choix clair et qu'on est entre les deux et que ça pose peut-être un réel problème.
Disons qu'on est, il y a des aspects, et Maastricht, justement, pour ça, était quelque chose de très nouveau, puisque Maastricht a créé, a donné des compétences fédérales à l'Europe. Alors, il y en avait quelques-unes, par exemple, la politique de concurrence européenne, si décriée en France, c'était déjà une compétence fédérale, dans le sens où la Commission seule décide sous contrôle du juge européen. Mais là, la Banque Centrale Européenne et la politique monétaire, ce sont des, la politique monétaire en soi, c'est une compétence fédérale. Mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas clairement ce qui est fédéral et ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez ce qui est très fédéral, la politique monétaire, la politique de concurrence, où là, les institutions européennes décident seules, et ce qui est à moitié fédéral et à moitié national. Alors, la politique agricole commune, on décide à moitié en Europe, à moitié dans les États membres. Vous avez des compétences d'appui. C'est d'une complexité absolument incroyable qui n'existe dans aucun État fédéral au monde. Par exemple, prenez les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, il y a des compétences qui sont fédérales, et puis des compétences nationales. Et les compétences fédérales sont contrôlées par le Congrès. Et ce qui est national est contrôlé par les congrès des États fédérés. Et ça, on n'a pas ça en Europe.
Et ça veut dire
parce que tout simplement, c'est une Europe des États.
Voilà, c'est-à-dire qu'on aurait effectivement quelque chose de plus simple. On aurait peut-être une plus grande adhésion des habitants de l'Europe pour l'Europe. Bien, alors on va faire un bond et faire un bilan aujourd'hui. Alors après de longues heures de négociations, un accord a été trouvé entre les 28 dirigeants européens le vendredi 19 février dernier, sur les demandes de réforme exigées par le Premier ministre britannique pour tenter de maintenir son pays dans l'Union européenne, ce qui n'est plus une évidence maintenant, puisqu'on saura au mois de juin, lors des référendums, si les Britanniques restent ou pas. On va écouter la déclaration de David Cameron, celle du 19 février dernier, faut lire entre les lignes.
La Grande-Bretagne restera bien en dehors d'une Europe toujours plus compacte. Elle ne fera jamais partie d'un super-État européen. Il y aura de nouvelles mesures pour restreindre l'accès à notre système social, aux migrants. Je crois que c'est suffisant pour proposer qu'on reste dans l'Union avec le meilleur des deux mondes.
Au chapitre des prestations sociales, il pourra différencier les citoyens britanniques des autres Européens vivant en Grande-Bretagne et réduire certaines allocations pour une durée de 7 ans, même s'il en demandait 13. Point très symbolique, sur le thème de la souveraineté, le Royaume-Uni n'est plus tenu de prendre part à une intégration politique plus poussée dans l'Union, alors que c'était écrit noir sur blanc dans les traités. Conclusion de David Cameron.
I do not love Brussels. I love Britain.
Je n'aime pas Bruxelles, j'aime la Grande-Bretagne. Et mon travail de Premier ministre est de faire tout mon possible pour protéger ses intérêts.
Voilà, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Tout ça pour en arriver à voir peut-être la Grande-Bretagne sortir de l'Europe. Peut-être la Grèce. Est-ce que ça s'appelle pas un échec tout de même, Jean Quatremer? Vous qui êtes si passionné par l'Europe, que vous défendez bec et ongles.
Si la Grèce sortait, ça serait un échec. Bon. Ça, c'est évident. Mm-hmm. Tout simplement, pourquoi la Grèce ? Parce que la Grèce est au cœur de toutes les politiques européennes.
Bien sûr.
On l'a acceptée dans l'euro, elle est dans Schengen. Voilà, ça ne se négocie même pas. Donc, si on n'arrive pas, on n'est pas capable d'aider, de sauver un pays comme la Grèce qui compte que 11 millions d'habitants, l'Europe a un véritable problème de solidarité politique, financière, et ça, c'est juste pas possible. La Grande-Bretagne, de vous à moi, honnêtement, je vais vous le dire brutalement, on s'en fout. Je veux dire que ça n'a aucune importance. Vous l'avez rappelé dans votre historique tout à l'heure, la Grande-Bretagne a commencé, d'abord est entrée à reculons dans l'Union européenne.
Un pied dedans, un pied dehors, c'est la tradition.
Oui, c'est-à-dire, ils sont rentrés à reculons. Déjà, le général de Gaulle leur avait opposé deux vétos en 1963, en 1967, parce qu'il s'apercevait que l'Europe du libre-échange dont il rêvait ne fonctionnait pas. Tout le monde voulait rejoindre la communauté économique européenne de l'époque. Ils sont rentrés. Ils ont déjà fait un premier référendum, je vous rappelle, en 75, pour confirmer leur adhésion de 73. Ensuite, ils ont négocié des exceptions. 84, le budget. Puis après, ça a été Maastricht, effectivement, le social et le monétaire. Puis après, ça a été les affaires de police, de justice, Schengen, la libre circulation. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, elle est complètement marginalisée au sein du système européen. Qu'ils sortent définitivement, mais tant mieux qu'ils sortent. Et comme ça, ça clarifiera davantage les choses. Et on verra ce qu'ils comptent sur la planète, sur la carte de la planète. D'ailleurs, c'est ce qui est venu leur dire Barack Obama. Oui. Si vous sortez, vous n'êtes plus notre priorité. C'est ça la réalité. Non, c'est pas un échec. C'est une clarification.
Si là, par rapport aux États-Unis, si la Grande-Bretagne sort, les États-Unis n'ont plus de cheval de Troie au sein de l'Europe.
Ah, ça, c'est les vieux fantasmes français du cheval de Troie. J'adore la France pour ça. Écoutez, franchement, les États-Unis...
Bon, c'est une question, hein, c'est pas une affirmation.
Oui, oui, mais les États-Unis sont venus nous sauver deux fois. Faut quand même, je vous conseille de relire un peu d'histoire de 14-18 et 39-45, la reconstruction de l'Europe. Sans les États-Unis, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Donc, vous savez, les États-Unis n'ont pas besoin de cheval de Troie. Ils ont des alliés solides. Et même la France est un des alliés les plus solides qui soient des États-Unis.
Jean Quatremer, faut-il que je vous rappelle le rôle de la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand même.
Ben exactement, mais bah, la Grande-Bretagne a joué un rôle.
Ah bah oui, et c'est, puisque ça,
c'est pour ça que la Grande-Bretagne,
la
c'est pour ça
aussi.
Que les États-Unis veulent que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. C'est pas un cheval de Troie. C'est que les Américains aujourd'hui, et ça c'est vrai, ils sont extrêmement inquiets de ce qui se passe en Europe. Ils ne veulent pas que l'Europe retourne aux années 30. Or, qu'est-ce qu'ils voient aujourd'hui ? Une Europe qui se déchire sur les réfugiés, le retour des intérêts nationaux, une montée des populismes et des fascismes en Europe,
très important.
Et un début de délitement avec une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et ça les inquiète, parce qu'ils se disent que dans 10 ou 20 ans, eh ben peut-être que les boys vont devoir de nouveau venir nous fiche la fessée pour qu'on se calme à nouveau pour 70 ans. Et c'est pour cela que Barack Obama s'est rendu en Grande-Bretagne et en Allemagne. Pour le reste, les États-Unis ont un allié solide, et bien plus solide que ne l'est Cameron, en la personne de Angela Merkel et de l'Allemagne. Il faut dire les choses comme elles sont.
Mais vous dites d'un côté, si la Grande-Bretagne s'en va, on s'en fout, mais en même temps, ça montre quand même un délitement.
Non, vous avez raison, mais simplement, je vous parlais du point de vue, du point de vue intérieur. Ouais. C'est pas ce que ça risque. Le vrai risque pour nous, c'est qu'effectivement, la Grande-Bretagne, le départ de la Grande-Bretagne, donne des idées à d'autres pays. En même temps, il faut sortir de cette espèce d'entre-deux que vous décriviez tout à fait justement tout à l'heure, et que l'on clarifie les choses. Qui a envie de créer, non pas un super state, comme le disent les Anglais, mais une république européenne avec des compétences fédérales, et qui n'a pas envie de participer à ce projet politique, ce projet de puissance européenne. Donc on pourrait très bien imaginer une Europe à deux vitesses, une Europe du noyau dur, avec quelques pays, dont la France et l'Allemagne, évidemment, c'était nécessaire, et d'autres pays qui participent au grand marché. Le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que les pays, enfin, notamment la France, c'est la France qui pose un problème fondamental, n'est pas prêt à faire ce pas-là. Et peut-être que la sortie de la Grande-Bretagne serait un tel choc pour les dirigeants européens qu'enfin, ils se mettraient autour de la table pour décider ce qu'ils veulent faire de l'Europe, qui effectivement aujourd'hui est affaiblie par la succession de crises qu'elle affronte, qui sont des crises extrêmement graves. Aucun pays n'aurait pu résister à autant de crises en aussi peu de temps. Crise économique, crise financière, crise de la dette, crise des réfugiés, crise du terrorisme, crise extérieure avec l'Ukraine. Et donc, l'Europe est affaiblie. Et peut-être qu'il serait temps de clarifier le projet européen. Je dirais que 25 ans après Maastricht, disons clairement qui a envie d'aller plus loin, qui n'a pas envie d'aller plus loin, qui veut créer cette République européenne. Je ne parle pas de fédération, ouais, parce que ça fait penser à un super state dont personne ne veut.
Jean Quatremer, il nous reste quelques secondes. Ce dont vous parliez tout à l'heure par rapport à la guerre et la paix m'interpelle. Est-ce que ça veut dire que s'il n'y a plus d'Europe, c'est la guerre ?
Ben, vous savez, comment est-ce qu'on règle les conflits entre les États, les conflits d'intérêts nationaux, en règle générale ? Ben, généralement, ça se termine par la guerre. C'est un moyen comme un autre de régler ces différends. L'Europe a trouvé un moyen original qui est de le régler par le droit, la norme, le juge. Nous sommes le seul espace géopolitique à tenter de régler nos différends de cette façon-là.
Bien.
Regardez ce qui se passe sur la planète.
Ça va être le mot de la fin. En tout cas, pardon de vous couper comme ça, mais vous savez.
Je vous en prie.
La pendule en radio, c'est toujours comme ça. Merci infiniment, Jean Quatremer.
Merci.
Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le traité de Maastricht, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.